Bonsoir. Le Conseil supérieur de la défense est revenu hier mardi à Goma pour statuer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Beni au Nord Kivu. Selon le porte-parole du gouvernement, l'objectif était de rendre plus efficientes les actions à entreprendre pour éradiquer efficacement et définitivement les forces négatives. Parmi les mesures prises, il y a notamment le renforcement des renseignements en encourageant une grande coopération entre la population et les forces de sécurité. Quelle analyse faire de ces mesures? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 17 août 2016 pour en parler. Je reçois dans cette émission pour les débats Maître Feller Luteichirwa. Il est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Maître Feller, bonsoir. Alors on a un petit souci avec... Voilà, il est en ligne. Et Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre de l'UNC, élu des Walikale au Nord Kivu, il est aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Maître Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Étienne Vivien Kalongi, politologue, analyste indépendant. Il est chercheur en résolution pacifique défensive. Monsieur Vivien Kalongi, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Neville Bavon du Nord Kivu. Ces mesures sont bonnes. Les problèmes, c'est leur application. Au stade actuel, il faudrait passer plutôt à la force militaire plutôt que de se limiter à des mesures superficielles. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Conseil supérieur de la défense réuni hier à Goma au Nord Kivu après une série de mesures pour rendre plus efficaces les actions visant à éradiquer les forces terroristes qui endeuillent la population de Beni. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit notamment de renforcer le renseignement en encourageant une grande coopération entre la population civile et les forces de sécurité. Lambert Mende est interrogé par Guy Maté.
Il y a eu une série de dispositions qui ont été prises par les membres du Conseil supérieur de la défense pour rendre plus efficientes les actions à entreprendre pour éradiquer de manière plus efficace et définitive ces forces terroristes qui utilisent des méthodes asymétriques. D'une manière générale, il faut une grande coopération avec la population parce qu'il ne s'agit plus d'une guerre conventionnelle avec deux tranchées face à face. Il s'agit d'une guerre de lâches. Vous savez, le terrorisme est une guerre de lâches et donc les renseignements jouent le rôle le plus important. Et dans le renseignement, la population doit coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour signaler tout ce qui se passe afin de permettre aux forces de sécurité d'anticiper les actions des terroristes qui utilisent la asymétrie dans le choix des cibles.
C'était là le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Et cet avant-midi à Beni, la situation a été très tendue. Des centaines de jeunes ont manifesté dans la ville, une manifestation spontanée initiée par différents groupes de jeunes pour protester contre la recrudescence des massacres des civils dans la ville et le territoire de Beni. Selon la société civile, au moins 1200 personnes ont déjà été tuées dans cette partie du pays depuis 2014. Jusque tard cet après-midi, des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la ville de Beni. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
C'est dans ce climat que les jeunes de Beni ont manifesté ce mercredi. Tantôt, ils se mettaient à l'abri devant les gaz lacrymogènes et les tirs des forces de l'ordre. Tantôt, ils criaient leur colère suite au massacre des civils dans leur région.
On est fatigué du fait que ça fait autant d'années, nous sommes exposés à n'importe quoi. Chacun se réveille de chez lui et s'installe aux yeux puissants des autorités. Il trouve plaisir de tuer la population civile.
Trop, c'est trop.
Des fois, on nous tue, mais ceux qui sont censés nous protéger, ils nous disent que non, c'est les présumés à d'œuf, guerre asymétrique, mais nous, populations, nous sommes en train de mourir.
Avec des bandeaux de couleur blanche sur la tête et des feuilles vertes dans les mains, ces jeunes disent demander la paix. La manifestation de ces jours marque la fin des trois journées villes mortes décrétées par la société civile après les massacres des dizaines de personnes le week-end dernier à Rwangoma. Cet après-midi, la grande tension de la journée tend à tomber et laisser place à la peur de la nuit. Béni, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Merci Rosalie Zawadi. Depuis Béni, Maître Feller Loutaïsiroi, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous avez suivi dans ce reportage cet avant-midi. La situation était très tendue à Béni. Des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la ville de Béni jusque tard cet après-midi. Quelle est la situation au moment où nous parlons?
Madame,
alors, on a un problème avec votre ligne, Maître Feller, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez bouger pour essayer d'améliorer la qualité de la ligne?
Alors, nous disons que après la réunion du Conseil supérieur de la défense qui était présidée par le président, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président lui-même, il a ordonné à ce qu'il y ait une descente. Et c'est pour ça que sous la conduite du Premier ministre, une descente s'est effectuée non seulement à Béni, pendant plus de 30 minutes à partir de Béni Centre, nous sommes descendus sur le site du massacre à Rwangoma. Et Rwangoma est effectivement dans la périphérie de Béni, c'est pratiquement dans les buissons parsemés de quelques huttes et quelques maisons, mais aussi essentiellement des champs. Et c'est là où les ADF ont effectué leur sale besogne en massacrant nos populations. Il se fait aussi que le Premier ministre était porteur d'un message de compassion du chef, mais aussi de toute la nation congolaise, parce que, tel que vous le savez, il a été décrété un deuil national pendant les trois jours. C'est regrettable qu'au niveau des politiques, la chose soit récupérée par l'opposition avec des manifestations. Et la chose peut s'interpréter comme si c'est un résultat escompté et que cela serait de mèche pratiquement avec les brigands qui, avec ces hors-la-loi, avec ces terroristes qui ont ravi la vie à nos populations.
Et donc, Maître Feller,
ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pratiquement une continuité des actions qui se sont faites. Les terroristes, ils aiment semer la terreur et malheureusement, nous nous rendons compte qu'il y a des politiques véreux qui sont en train d'inviter les populations à poursuivre, à perpétuer les effets plus que même ceux attendus, parce que nous avons perdu des vies humaines. Nous les avons perdus depuis le début. Ce ne sont pas seulement les civils qui meurent, mais nous avons perdu aussi des militaires depuis le début des opérations. Et il est un tout petit peu anormal qu'en même temps, nous puissions perdre davantage parce que nous sommes endeuillés par le terrorisme.
Maître Feller, si je vous comprends bien, vous pointez du doigt l'opposition de récupérer cette situation en organisant des manifestations.
Il n'y a jamais eu action sans intérêt, en ce que je sache. Le comportement de tous ceux qui sont en train d'appeler la population à faire des manifestations, à faire des casses, à aller à Béni, endeuiller davantage nos populations, ils sont pratiquement dans la même ligne avec les terroristes. Et il faut retenir, madame, que parmi les capturés, parce que le procès va être organisé, parmi les capturés, il y a aussi des enfants du coin, raison pour laquelle nous saisissons l'occasion pour appeler les populations conscientes à ne pas répondre à ces appels malveillants qui risquent d'endeuiller davantage et donc perpétuer les effets escomptés par les terroristes. Et il n'est même pas exclu que ces mêmes terroristes soient parmi ceux qui se disent manifestants.
Et comment se présente la situation ce soir? Est-ce que la situation est devenue calme à Bénéville?
Oui, madame, la situation est redevenue calme. Il se fait que quand une population est en deuil, dans nos coutumes, on dit qu'on ne voit pas la bouche de celui qui est en deuil, parce qu'il peut dire n'importe quoi. Il se fait qu'il y a une forte délégation conduite par le vice-premier ministre qui séjourne dans la ville de Béni avec ses collègues, le ministre de la Défense, le ministre d'État de la décentralisation des affaires coutumières, pour essayer un peu d'enrichir les propositions des réponses à cette guerre asymétrique, parce que c'est pratiquement un terrorisme. Et nous pensons que, comme cela se passe ailleurs, il aurait fallu une réponse beaucoup plus solidaire, population, FARDC, autorités locales, autorités provinciales, comme nous jouissons aussi de la solidarité de toute la nation congolaise à travers nos dirigeants nationaux. Nous pensons qu'il faut beaucoup plus s'inscrire dans la solidarité plutôt que cela nous divise et que davantage cela produise des effets outre petita au niveau de ceux qui ont décidé de nous défier.
Alors, Maître Feller, le Conseil supérieur de la Défense s'est réuni hier à Goma et a pris une série de mesures pour éradiquer ces forces terroristes, notamment renforcer le renseignement en encourageant une grande coopération entre la population et les forces de sécurité. Cette mesure avait déjà été prise dans le passé, on le sait, mais elle n'a pas réussi à mettre fin à la sécurité dans cette zone. Vous pensez que cette fois-ci, ça va apporter des résultats escomptés?
Madame, je ne peux pas m'arroger le rôle de porte-parole du Conseil supérieur de la Défense, mais je peux témoigner que, compte tenu de la nécessité de la grande coopération solidaire, autorités politiques, autorités civiles, majorité et même l'opposition, parce que quand le peuple est en deuil et partout ailleurs, il n'y a pas d'opposition devant le cadavre, devant le deuil.
Okay.
Et les FARDC et tout le monde, raison pour laquelle des consultations ont été étendues à toutes les couches de la population, non seulement ce qui s'est fait sur place à Béni, mais aussi ici à Goma. Au courant de toute la journée, le Conseil supérieur s'est adonné à cette tâche-là. Ils ont consulté et la société civile et les députés provinciaux et tous les autres notables et les comités provinciaux de sécurité.
Merci.
Pour enrichir les mesures et faire de sorte que enfin on puisse
Merci, Monsieur le vice-gouverneur, Maître Général Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre de l'UNC. Vous êtes élu de Walikale, au Nord Kivu. Vous êtes rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Comment vous analysez ces mesures prises par le Conseil de défense pour mettre fin et éradiquer ces terroristes de Béni?
Je voudrais d'abord saluer le vice-gouverneur, également M. Kalonji, l'analyste politique. La situation de Béni, madame, la situation de Béni est extrêmement grave. C'est comme ça que nous la qualifions. Il y a déjà des centaines et des centaines de personnes tuées. Le bilan matériel est assez grand. Et ça appelle à des actions urgentes, courageuses et une bonne dose de volonté politique pour y mettre fin. Parlant des mesures qui ont été prises au niveau du Conseil supérieur de la Défense, les renforcements des renseignements, oui, c'est une bonne chose. En fait, c'est un principe. C'est un principe qui, on a fait que rappeler, en fait, le principe qu'on ne gagne pas une guerre sans renseignements. Donc, ce n'est pas nouveau, ça, les renseignements. Lorsque vous voulez gagner une guerre ou neutraliser des forces négatives, il faut avoir les renseignements. la coopération avec la population ou la collaboration avec la population, ce n'est pas nouveau, c'est un principe, c'est bien de rappeler ça. Et les députés qui ont effectué une mission parlementaire, souvenez-vous, en 2014, à la fin de l'année, lorsque les massacres venaient de commencer, ont noté justement qu'il y avait un déficit de collaboration ou de bonne collaboration entre population et FARDC ou forces de sécurité. Et vous voyez bien qu'à ce niveau ici, la population collabore quand même avec les forces de sécurité. Pourquoi ? Parce que dans les rapports des députés, les rapports des parlementaires, ils ont noté que la population donnait des informations aux militaires, allait vers les camps des militaires, saisissait les commandants des militaires pour leur dire, voilà, il y a des mouvements suspects, nous avons des informations que les assaillants pourraient, dans les heures qui viennent, attaquer, mais les forces de sécurité, les responsables de la sécurité n'agissaient pas. Ils ont noté donc une intervention tardive. Ça, c'est écrit dans les rapports. Il y a parfois défaut d'intervention, il y a parfois intervention tardive. Donc on n'a pas vraiment à condamner. La population a fait sa part dans cette coopération-là. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est par rapport à ce qu'il venait de dire par rapport aux manifestations d'aujourd'hui. Évidemment, il faut comprendre ça comme une situation de deuil, parce que ce qui se passe à Béni, c'est, comme je l'ai dit, c'est extrêmement grave. Il y a des gens qui ont perdu des parents, il y a des hommes qui ont perdu des femmes, il y a des femmes qui ont perdu des hommes. Eh bien, vous n'allez pas quand même stopper quelqu'un qui a perdu un être cher d'exprimer le deuil, d'exprimer le chagrin. Et vous savez, le chagrin, on peut l'exprimer aussi en s'agitant, c'est normal. Et donc, le gouvernement devrait comprendre ça et on ne devrait pas encourager l'attitude de la police. Parce qu'il y a eu des crépitements des balles, il y a eu des gens qui ont reçu même des balles. Il y a au moins une personne tuée, une ou deux. Il faut vérifier le dernier bilan. Et donc, la journée elle était très agitée et pourtant, elle ne devrait pas être agitée parce que je ne crois pas que...
Mais selon le vice-gouverneur, c'est vous de l'opposition qui poussez les gens à aller manifester, à casser.
Non, c'est une affirmation, je dirais, gratuite, parce que au fait, j'ai beaucoup de respect pour le vice-gouverneur, c'est un juriste comme moi. Il sait bien qu'il ne suffit pas d'alléguer les faits. À celui qui allègue les faits, d'en apporter les preuves. Actor incumbit probatio. Et je crois que vous l'avez constaté, il n'a pas été à mesure d'indiquer si c'est quel parti d'opposition ou quel groupe d'opposants qui serait à la base de ça. Il ne suffit pas d'alléguer des faits. Je comprends, il est de la majorité au pouvoir, il est du PPRD, mais cela ne veut pas dire que dès qu'il y a un ça ne va pas, il faut attribuer ça à l'opposition. L'opposition, c'est celle-là, c'est l'UNC par exemple qui a appelé plutôt à une table ronde sécuritaire sur Béni, hein, à une sorte d'union sacrée, parce que nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs, en France, un peu partout aux États-Unis, il n'y a pas majorité et opposition, évidemment, il a bien fait de les rappeler, lorsqu'il y a des événements comme ça. Mais ce n'est pas l'opposition, en tout cas celle responsable, la nôtre, que nous connaissons, et d'autres d'ailleurs partis d'opposition, et qui puissent encourager ou envenimer, mettre de l'huile au feu. Donc moi je ne crois pas. Il ne suffit pas d'alléguer ça, sinon c'est une accusation, c'est une imputation dommageable. Il est juriste et il le sait bien.
Alors,
donc il n'y a pas question de dire que l'opposition récupère la manifestation. C'est une manifestation de colère. La population, elle est dépassée. Et constate des insuffisances. Il y a par exemple une faible capacité d'anticipation malgré les informations que les forces de sécurité recevaient. Une faible capacité de réaction rapide. Alors, quand la population voit tout ça, et pourtant il existe une armée, une police, un gouvernement, une communauté internationale ici représentée par la MONUSCO, allez-y comprendre que si vous mettez dans la peau de cette population, il y a lié quand même de comprendre une population qui pleure en réalité.
Merci Maître Juvenal. Étienne Vivien Kalogi, politologue et analyste indépendant. Vous êtes également chercheur en résolution pacifique des conflits. Vous avez suivi les mesures prises par le Conseil supérieur de la défense pour essayer d'éradiquer efficacement et définitivement les forces négatives qui ont deuil Béni. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on a perdu Étienne Vivien Kalongi, la réalisation. va essayer de le rappeler. Maître Feller, on a pour vous une réaction qui nous vient de Kalemi dans le Tanganyika.
Je suis Emmanuel Mboyo, j'appelle depuis la ville de Kalemi dans la nouvelle province du Tanganyika. Ces mesures du gouvernement sont et seront toujours de s'appeler de bonnes intentions. Sans faire résultat sécuritaire. On se demande si notre gouvernement n'a pas sa politique propre de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a seulement la politique de promesse, de comptage de mort et de dénonciation du terrorisme à l'effet. Ça n'est-il qu'on dit de mort au nom de vous que le gouvernement doit être aujourd'hui un bien national. On n'a pas d'histoire dans toutes ces mesures. On aura toujours des armes pour pleurer au mort.
Alors, vous allez nous excuser pour la ligne d'Emmanuel Mbouyou qui nous appelle depuis Kalemi. Monsieur le vice-gouverneur, est-ce que vous avez saisi un peu la réaction de cet auditeur qui nous appelle de Kalemi?
Oui, madame. D'abord, je salue l'honorable journal, mais je vais juste lui dire qu'il y a des indices et des signes qui ne trompent pas. D'abord, un, les gens sont partis encourager de Butembo jusqu'à Beni. C'est plus de 55 kilomètres. Ce sont des jeunes qui étaient mobilisés et donc qui sont bien identifiables. Au niveau de Beni, les manifestants se sont attaqués au drapeau de la majorité présidentielle, au drapeau du PPRD. Et puis, sur les trois pertes humaines que nous regrettons, il y a deux personnes qui ont été brûlées vives par les manifestants. Madame, nous pensons que ça, ce sont des indices clairs qui établissent que non, il y a des jeunes qui sont instrumentalisés. Et à part cela, il y a encore des faits beaucoup plus abominables. Nous n'allons pas étendre les effets de ces manifestants vers eux. Nous avons dit...
On parle de manifestations spontanées, monsieur le vice-gouverneur. On parle de manifestations spontanées initiées par différents groupes de jeunes qui en ont marre de cette souffrance qui se vit tous les jours à Beni.
Madame, il se fait que les FARDC ont fait un travail formidable. Il y a des choses qui ne se disent pas sur les médias. Nous avons perdu des vaillants combattants au front. Quand on parle d'un colonel qui tombe au front, comme le colonel Mamadou, redevenu général à titre posthume, nous avons perdu le général Bahouma. Nous ne parlons pas de tous les éléments qui sont tombés. Au niveau de Beni, ce serait vraiment insensé et ingrat de penser que le gouvernement ne fait rien. Et il y avait des quartiers généraux, Medina, Canada, qui ont été démolis au prix du sang de nos compatriotes. Ce sont nos enfants, les militaires qui sont tombés et de toute la nation congolaise. Il n'est pas normal que pendant cette période, au lieu que nous soyons solidaires et que nous puissions indiquer, voilà, il y a tel problème et tel autre problème. Au niveau des capturés, madame, nous devons aussi dire que dans la même contrée, au niveau des capturés, plus de 40%, ce sont des enfants du pain. Et ce sont des enfants pour lesquels on peut identifier tel papa, telle maman, son enfant qui est allé là-bas.
Mais comment vous expliquez cette présence
des pisteurs pour les massacreurs?
Mais comment vous expliquez la présence de ces enfants du quoi dans ces groupes armés, monsieur le vice-gouverneur?
Oui, il y a eu beaucoup de recrues au niveau local, mais au niveau et la classe dirigeante de ce groupe armé atypique, de ce terroriste ADF, il y a toutes les nationalités. Il y a des gens qui sont venus et de la Somalie, et de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda. et il y a aussi des Congolais, pas seulement du coin, il y en a qui viennent du sud qui vous et de tout le nord qui vous pratiquement de toutes les tribus, mais du point de vue des statistiques nous indiquées par les capturés, parce que cela va davantage être public à travers les procès, il y a plus de 40% qui sont des enfants du coin et qui sont les pisteurs particuliers pour les massacres. Et nous craignons que les mêmes massacreurs puissent être parmi les manifestants, les jeunes qui sont en train de descendre. Et comme la chose est en train d'être récupérée par une certaine opposition véreuse, madame, il y a lieu d'appeler à l'ordre nos compatriotes. Nous devons faire le deuil et le deuil ne le faisons pas en démolition. Les deux, nous ne les faisons pas dans la rue.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Maître Juvenal, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient d'Issiro.
C'est Alain Bolodja depuis Issiro. La récurrence des opérations criminelles nous pousse à croire à une complicité, si pas de la population, mais du moins de nos tables. Il est impensable que cette série d'opérations se fasse par des agents qui n'ont pas une certaine maîtrise de la ville ou sinon du dysfonctionnement du dispositif sécuritaire. Il est plus que temps que la population se désolidarise et que ces heures de la mort par un mort à béni et un mort de trop.
Maître Juvenal.
Oui, je viens bien écouter cet auditeur. Évidemment, l'auditeur doit être quelqu'un qui est en colère aussi de voir ses compatriotes être massacrés comme ça. Et donc, oui, parfois il peut y avoir de l'émotion, évidemment. Mais la réalité est que les ADF dont on parle, là, ils ne sont pas seuls. Ça, il y a déjà des rapports. Il y a les rapports, par exemple, du groupe d'études sur le Congo, dont le chercheur a été expulsé, Jérôme Stars, vous souvenez. Il y a les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, les rapports finaux, qui montrent au fait qu'il y a les ADF, évidemment, mais il y a des complicités. Il y a des complicités locales. Au niveau interne, il y a quelques officiers, il y a un officier qui a été cité dans ces massacres-là. Mais la question intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait.
Complicité des notables, complicité au sein de la population de certains notables.
Oui, mais comment le gouvernement accueille ces rapports d'experts? Parce qu'il y a des experts qui ont commencé à s'interroger sur Beni. Mais pourquoi le gouvernement n'enquête pas profondément sur Beni? Les capturés, parce que les capturés, on n'en parle pas qu'aujourd'hui, il y a eu des capturés dans le temps. Qu'est-ce qu'on a fait des capturés? Djamil Mukulu, qu'on présente comme étant le cerveau des ADF qui a été arrêté, est-ce que le gouvernement peut nous dire où est-ce qu'il en est avec l'Ouganda pour qu'on sache, parce qu'à partir de celui-là, on peut savoir la lumière sur les ADF et pourquoi ils tuent les gens ces dernières années, ces derniers mois. Il y a des questions importantes qu'il faut poser, hein, contrairement à ce que le vice-gouverneur, parce que le vice-gouverneur veut nous ramener plutôt à un débat si les gens sont en train de pleurer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui les agite. Il n'a pas été à mesure, il parle d'indices, mais pas de preuves. Moi, je crois que nous devons poser des vraies questions au cours de cette émission. Les vraies questions, c'est de savoir qui sont les tueurs de Beni. Les vraies questions, c'est de savoir la responsabilité est-elle externe, parce que les Ougandais, ADF, c'est des Ougandais, est-ce qu'il n'y a pas une dimension interne en termes de responsabilité aussi? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir à qui profitent les crimes. Quelles sont les causes? Que fait l'armée? Que fait la police? Que fait la MONUSCO? Voilà. Ce sont des questions importantes qu'on doit se poser. Raison pour laquelle nous avions proposé, le président Vital, une table ronde sécuritaire. Mais le gouvernement n'a même pas. Oui, vous dites.
Alors, vous posez une série de questions. Qui sont les tueurs de Beni? Est-ce que vous avez une idée de qui pourraient être ces tueurs? Parce qu'on nous parle des EDF, des djihadistes. Vous avez une autre piste?
D'abord, dire du coup que ce sont des terroristes, c'est aussi aller vite en besogne. Parce que on sait comment les groupes terroristes opèrent. Je n'ai pas tous les éléments au fait d'appréciation ici, mais il revient au gouvernement. Moi, je ne suis pas enquêteur du gouvernement. Il revient au gouvernement d'enquêter sur les ADF. Il revient au gouvernement de demander une commission d'enquête internationale, une mission d'enquête internationale. Parce que le terrorisme, parlons-en, lorsqu'il y a des morts et il n'y a personne qui revendique ces morts-là, parce que les groupes djihadistes, on sait, que ce soit les Al-Shabaab, que ce soit Al-Qaïda, il y a des revendications. Je ne crois pas qu'on ait, on a déjà tous les éléments pour dire que c'est un cas de terrorisme. Mais le gouvernement vite s'est pressé à considérer ça comme étant un terrorisme. Alors, si c'est un terrorisme, selon ce que pense le gouvernement, alors il revient au gouvernement de saisir le Conseil de sécurité, je l'ai dit il y a je crois un jour sur Radio Okapi, et de montrer à la face du monde qu'on est en plein terrorisme. Moi, je crois que on peut encore mettre fin à ça lorsque on réorganise l'armée. Nous avons déjà une expérience quand même ici. L'armée congolaise est réorganisée à mi-fin au 1-23 avec la collaboration de la MONUSCO et la collaboration de la population de Rutshuru. Mais comment l'armée congolaise ne pourrait pas tenter cette expérience heureuse, hein, de mettre fin, comme elle a mis fin à la rébellion du 1-23. L'armée congolaise a déjà eu des commandants vaillants. Le vice-gouverneur l'a rappelé, Bauma, Mamadou Ndala. Mais comment n'est pas, les hommes ne manquent pas, mais comment n'est pas au niveau du commandement s'interroger et s'assurer, est-ce qu'on a un bon commandement qu'il faut au moment où nous en sommes?
Merci.
C'est un moment de défi.
Merci, hein? Maître Chevenal.
Donc la solution demande, il faut du courage, de la volonté politique. Et moi je crois que dire du coup que c'est un terrorisme, eh bien, ça pourrait être un terrorisme.
Merci,
pas.
Maître Juvenal. Mounoubou, je vous redonne la parole. La réalisation me signale que Vivien Kalonji est en ligne. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends, Madame Céline Couté.
Alors, vous êtes politologue, analyste indépendant, je l'ai dit, et chercheur en résolution pacifique des conflits. Quelle est votre lecture de ces mesures prises par le Conseil supérieur de la défense pour éradiquer définitivement, efficacement, ces forces négatives qui endeuillent Béni?
Oui, en fait, je suis d'accord avec les mesures que le Conseil de sécurité vient de prendre. Et ce qui est... désastreux de voir que ces mesures ne tombent que lorsque il y a l'hécatombe qui s'annonce sur la population congolaise. Alors qu'il faut ici reconnaître que parmi les missions traditionnelles de l'État, c'est notamment la sécurité de l'intégrité du territoire national et la protection, la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, ce sont les missions fortes, les missions primaires qui ont concouru à l'existence même de l'État. Et c'est de cette manière que nous sommes en train de déplorer pour voir que quelle est cette forme de l'État, quelle est cette nature de l'État qui ne peut que crier, dénoncer, mais sans anticiper les actions, pendant que les populations qui vivent sous son autorité sont massacrées, décimées comme des moutons à l'abattoir. Alors, si ces mesures peuvent nous réconforter, dans le sens où on tient compte de la collaboration de la population avec les services, les forces de sécurité. Mais nous devons savoir qu'à ce stade ici, les forces de sécurité doivent nécessairement anticiper, faire leur travail d'abord, de connaître, de répertorier, d'identifier même la nature des terroristes. Parce qu'effectivement, les massacres s'opèrent en forme du terrorisme. C'est la forme du terrorisme, mais nous ne pouvons pas ici d'emblée aussi croire qu'il existe des terroristes qui massacrent des populations, mais sans pour autant revendiquer le mobile de leur action. Parce que sous d'autres cieux, nous voyons les terroristes qui commettent des actes de terreur et qui, par après, revendiquent la paternité de ces actes-là pour consolider nécessairement leurs idéologies. Mais ici, si ce sont réellement les ADF qui sont des forces étrangères, qu'est-ce qu'ils cherchent au Congo pour décimer les Congolais? Et qu'est-ce que les Congolais attendent pour en découdre et anticiper sur ces actions? Est-ce que l'État congolais manque-t-il des moyens de s'approprier l'achat des drones, des avions sans pilote pour repérer les endroits où se cachent ces terroristes? Est-ce qu'au sein de notre armée, nous ne pouvons pas ici envisager l'avènement des forces spéciales qui peuvent se dissimuler dans la population afin d'étendre piège à ces massacreurs pour réellement anticiper les actions et les attraper? C'est ce que nous déplorons, Madame Kelly Touté.
Mais selon le vice-gouverneur, il n'y a pas que des étrangers au sein des EDF, on y trouve aussi des Congolais.
Mais encore faut-il le prouver, s'il existe des Congolais qui sont des mèches avec les étrangers pour décimer certains autres Congolais, mais cela revient au gouverneur qui a les puissances publiques entre ses mains pour en découdre et anticiper les actions. Nous ne pouvons pas ici commencer à nous habituer à des discours alarmistes de nos autorités qui doivent au contraire, au lieu de déplorer, au lieu de dénoncer, passer directement à l'action. Parce que la sécurité des personnes entre en ligne de compte des missions traditionnelles de l'État. Ils sont aux commandes de l'État, ils doivent nécessairement fournir assez d'efforts pour permettre à nos compatriotes qui sont maîtrisés pendant plusieurs années de savoir comment mettre fin à cette situation malheureuse. Encore faut-il, madame, que je vous souligne qu'à l'est du pays, dans les territoires où s'opèrent ces actions, nous avons des vaillants patriotes comme les habitants de Beni, ici je vois les Nandés, les Houndés, ce sont des vaillants patriotes qui savent réellement comment élever même le sens du patriotisme au Congo au travers de leur commerce. Mais si à ce stade ici, nous devons toujours assister à des massacres et que nous devons assister à un gouvernement qui va commencer à crier sans pour autant agir, alors ça nous écœure. Avantage.
Alors, Étienne Vivien Kalonji, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud-Kivu.
Robert Lomé de Bukavu au Sud-Kivu. Ces mesures prises par le Conseil supérieur militaire à Goma sont une bonne chose. Elles ne suffisent pas néanmoins à résoudre efficacement les problèmes sécuritaires de Beni ni de l'Est de la RDC en général. Il y a risque que le reste des mesures aient été cosmétiques et de courte durée. Encore faudrait-il que la solution à ces problèmes de Beni et de tout l'Est de la RDC soit la résultante des efforts locaux, nationaux, régionaux, internationaux, à la fois pour espérer venir à bout de ces phénomènes dans cette partie du pays.
Étienne Vivien Kalonji.
Oui, je salue mon compatriote et je lui félicite pour ses points de vue. Il a certainement raison. C'est une matière qui relève de beaucoup d'implications sur le plan local et sous-régional. Et d'emblée, Madame Céline Couté, notre compatriote doit connaître que l'Est du Congo a toujours été l'objet de plusieurs convoitises dans la politique des pays de nos voisins. Parce qu'encore faut-il reconnaître qu'il y a plusieurs publications qui parlent, qui dénoncent sur les visées expansionnistes de nos voisins. Encore faut-il ici faire une lecture rétroactive de voir comment la libération de l'APDL est venue de l'Est. Et ici, il faut prendre le problème à bras le corps. Imaginez, entrevoir vraiment des solutions efficaces qui pourra nous permettre d'abord, d'anticiper ce genre d'action, parce que cela n'est pas impossible, il suffit d'une volonté politique, il suffit que l'État mette des moyens, que l'État puisse réellement motiver nos vaillants combattants de nos forces armées nationales, et que l'État aussi puisse permettre à ce que la population puisse se prendre en charge au travers des dénonciations et au travers aussi une défense civile non violente. Ici, j'entrevois qu'il faut même à la longue que dans ce coin du pays, il y ait réellement une mobilisation de l'État pour apprendre aux jeunes gens à entrevoir la connaissance des disciplines sportives. Cela les mettre d'abord, en premier lieu, à l'abri des massacres par les armes blanches qu'utilisent les terroristes s'ils existent réellement. Parce que dans ce coin-là, si l'État congolais permettait à ce que tous les jeunes gens puissent nécessairement connaître les arts martiaux, c'est déjà une défense, une alternative de défense avant même d'entrevoir l'achat des armes et anticiper plusieurs moyens lourds pour en découdre avec ces phénomènes.
Alors là, c'est déjà une proposition, de solution que vous donnez là, Étienne Vivien Kalonji. Maître Souvenel a parlé de réorganiser l'armée. Il y a un auditeur qui nous écrit de Mbujimayi jusqu'à Tshibambe, qui pense que la meilleure solution est celle de créer une armée forte, avoir un service de renseignement vraiment à la hauteur et voire même la police.
Certainement, cela est vrai, parce qu'il faut ici se réaliser pourquoi les ADF ne commettent pas ces massacres-là en Ouganda, qui contestent le gouvernement ougandais. Et quel intérêt ont-ils de venir décimer les vies des Congolais qui n'ont rien à voir avec leurs politiques internes en Ouganda? Donc c'est une matière très très délicate et complexe que nous devons analyser avec beaucoup d'esprit patriotique.
Merci.
Il faut qu'on se le dise que le problème est tellement profond. Ici, il faut un sursaut du patriotisme qui doit seulement être démontré par nos autorités. Et ils doivent aussi cesser de réprimer les populations qui dénoncent ces massacres, comme je l'entends ici au travers de vos ondes. Comment il y a des balles, il y a des gaz lacrymogènes qu'on lance sur des populations civiles.
alors qu'on a besoin qu'on fasse ces choses-là à l'endroit des terroristes qui ne cessent de décimer les vies innocentes de nos compatriotes.
Merci Étienne Vivien Kalonji, maître Félix Lou Taïchiroa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Hormis cette mesure demandant le renforcement des renseignements, encourageant une grande coopération entre la population et les forces de sécurité, y a-t-il une autre mesure prise ou d'autres mesures prises pour éradiquer efficacement ces groupes armés dans la ville de Beni?
Madame, il y a énormément de mesures qui ont été prises et qui vont être appliquées par divers acteurs et nous ne pensons pas que nous soyons les mieux indiqués pour pouvoir publier aux médias ces mesures-là. Mais celles-ci qui concernent la collaboration étroite entre les services de sécurité avec la population, nous pensons que effectivement nous pouvons vulgariser cela. Nous disons aussi que tous les pays qui ont fait face à ce genre de menaces, à ce genre de terrorisme, parce que ce mode opératoire a été utilisé après que les ABF aient été défaits sur tous les fronts militaires. Donc ce qui s'est fait n'est pas militaire. Ces ABF ne s'en prennent pas à des positions militaires, sauf que quand ils font des embuscades, mais ils sont en train de s'en prendre aux populations civiles.
Alors, qu'est-ce que la population doit retenir
Ils ne le déclarent pas. Et parce que au niveau de l'armée, comme nous ne faisons pas de sorte qu'ils aient la capacité de déclarer, de réclamer, de revendiquer, cela de nature. Les faits qui sont en train de poser, je ne pense pas. Les faits sont effectivement des faits terroristes.
Nous alors pour conclure, Maître Feller,
nous avons visité les lits où nos compatriotes ont été achevés.
Maître Feller,
ils sont là, ils ont laissé les habits, ils ont brûlé ce qu'ils pouvaient brûler.
Maître Feller, s'il vous plaît. Maître Feller.
Tout celui qui suit peut qualifier ce fait-là comment? Parce que comment on peut tuer sans quelconque autre mobile, à part le fait de créer l'émoi, de créer l'angoisse et de créer le terrorisme?
Merci, Maître Feller, Loutaïchir. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Il nous reste moins de deux minutes pour notre fin de cette émission. Maître Juvenal Mounoubou, votre conclusion. Un mot à tous ces, à cette population qui est sous le qui-vive, qui dort avec la peur. Quel message, vous, notables du Nord Kivu, pouvez lancer à cette population?
C'est un message, malgré les difficultés, les chagrins, la douleur, c'est un message d'espoir. Et aux acteurs politiques, acteurs sociaux, il faut une union sacrée, une coalition nationale comme l'a préconisé l'UNC. Pourquoi? Parce que c'est une question qui ne regarde ni pouvoir ni opposition. Et il faut une table ronde sécuritaire, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on pose des questions et qu'on essaye de voir au niveau des responsabilités qu'est-ce qui peut être fait par le gouvernement pour que ça change, pour qu'on mette fin à ça. Merci. Il faut des enquêtes, le gouvernement doit enquêter sur ce qui se passe. Je pense même que le Parlement devrait se retrouver en session extraordinaire pour poser des questions au Premier ministre, au ministre de la Défense et de l'Intérieur.
Merci, Maître Juvenal Mounoubou. Étienne Vivien Kalonji, un mot pour conclure.
Le gouvernement doit déplacer son siège et le placer à Goma, parce que c'est là où se passe le théâtre des opérations de massacre de nos compatriotes. Nous ne voulons plus les voir à Kinshasa et nous demandons à notre chef d'État de placer l'état-major général de notre armée pour que cet état-major puisse avoir siège à Goma.
Merci.
Et c'est là que nous devons mobiliser le plus grand nombre de nos troupes pour que nous puissions mettre fin à ces phénomènes désastreux qui ne cessent de créer malheur.
Merci Étienne Vivien Kalonji. Bonne suite au programme sur la fréquence de la paix.